Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. But I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about yours. I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor. En attendant l'ouverture officielle de la saison mardi prochain à 19h en direct et en public pour l'enregistrement public de rentrée de Transistor, nous voilà de retour pour une petite discussion sur quelques films sortis pendant l'été et que vous aurez peut-être la chance de voir pour leur dernière séance lyonnaise. On ressort donc la toile blanchie par le soleil de notre petit cinéma radiophonique et pour la dépoussiérer en prévision d'une saison qu'on espère riche en découvertes, j'accueille les yeux acérés de Mathias, Pierre, Anna et Occitane. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour Rémi.
Bonjour Rémi.
Et on commence donc avec un premier film qui va vous être présenté par Pierre et Occitane qui fait ses débuts dans l'émission.
Voilà.
Wonder Woman de Patty Jenkins. Alors qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas à qui je laisse la parole.
Alors c'est l'histoire donc d'une des super-héroïnes phares de l'univers DC Comics qui quitte son île d'Amazon cachée aux yeux du monde pendant la Première Guerre mondiale aux côtés du Major Steve Trevor pour aller combattre le mal incarné par entre autres les Allemands.
Entre autres. Hein.
Alors voilà pour un résumé, donc les Allemands, mais pas que. Et vous en avez pensé quoi de ce film, Pierre, peut-être?
Moi j'ai bien aimé. Moi franchement j'ai bien aimé, c'était un bon moment, c'était divertissant, c'était rigolo. Après c'est un truc de super-héros, hein, faut pas en demander trop. Ça remplissait le cahier des charges, c'était chouette. Bon, voilà, quoi. Il y avait de l'action, l'histoire, ça marchait plutôt bien. Le twist, il est rigolo, en fait, le twist final dans l'histoire. Après, on sent bien sûr que c'est un peu un film filler, le temps que la Justice League arrive. C'est pour ça qu'on a la petite scène d'introduction où, en fait, c'est Batman qui contacte Wonder Woman pour la recruter, quoi. Voilà, bref. Mais sinon, en fait, ça lance un truc relativement bien et... Mon côté historien n'a pas été totalement choqué par ce que ça représentait, parce que c'est tellement... poussé dans une direction que en fait on s'en fout, c'est pas l'histoire, c'est pas la vraie histoire, tout simplement. Si tu cherches du réalisme, tu te fais avoir comme un con.
Non, une pipe.
Et du coup en fait c'était vraiment drôle, mine de rien. La violence était bien dosée, il y avait des explosions partout, après bon, c'est aussi une femme badass qui se bat contre des mecs méchants. C'est toujours rigolo et bon à prendre. Forcément il y a le sacrifice du gentil héros, patati patata, mais ça remplit toutes les cases, je pense. C'était un bon divertissement. Je me suis bien marré.
Alors, tu t'es bien marré, Occitane?
Non, je me suis beaucoup moins marré. il m'a semblé que... tu parlais du twist de fin. Il m'a semblé que ce twist était un petit peu dommage, que ça facilitait un petit peu les choses. Alors que ce que j'aimais bien en ce moment dans la ligne éditoriale de DC, c'était ce côté essayer de montrer la complexité du réel, la complexité des combats à mener. Et là, c'était très facile de mettre un dieu de la guerre méchant à la fin, qui, d'ailleurs, dans le petit flashback, on le voit à l'époque de la Grèce antique, a une jolie moustache britannique, quand même assez splendide.
J'adore.
Et il me semble que, ce film souffre un peu de tous les défauts des films d'ici et depuis la fin de l'ère Christopher Nolan, avec cette espèce d'étalonnage de couleurs très... lisse et à la fois un peu sombre pour essayer de donner ce côté, c'est pas facile d'être un super-héros, mais en même temps il y a beaucoup de facilité de scénario, je trouve, notamment dans l'écriture des personnages de la petite bande.
Alors justement, on parle de Pierre peut-être.
Ouais, en fait franchement, j'ai vu l'affiche Wonder Woman, c'est ça que je suis allé voir ces facilités de scénario, je suis allé voir ces effets spéciaux énormes et ces dialogues qui sont aussi émoussés qu'un couteau à beurre, quoi.
Certes, mais ce film
c'est la finesse, Pierre.
Mais ce film a été vendu quand même comme quelque chose qui portait un combat, notamment féministe, et je trouve que c'est un peu de la publicité mensongère. Il fallait alors assumer ce côté.
Alors justement, j'allais y venir. Ce côté féministe, le film a quand même été accompagné d'un immense bruit médiatique autour du fait que c'était maintenant enfin le blockbuster féministe. Il y a peut-être des choses à dire là-dessus aussi.
Récemment, il y a eu, comment il s'appelle, James Cameron qui a accusé ce film d'être un pas en arrière pour le féminisme, d'être, comment dire, une énième sexualisation d'un personnage féminin, c'est-à-dire Wonder Woman, par Hollywood, bien que ce soit une femme, paradoxalement, qui réalise le film. Mais Patty Jenkins a rétorqué assez laconiquement que James Cameron ne pouvait pas comprendre puisqu'il était tout simplement pas une femme et que... Ça me paraît un petit peu léger comme argument, et du coup il me semblait qu'il fallait peut-être un peu s'interroger sur ce regard masculin que porte Hollywood sur le cinéma, sur ce cadre qu'il réserve aux femmes, et en particulier sur le concept de male gaze qu'avait développé Laura Mulvey dans les années 70 dans un article dont j'ai oublié le titre. Et il me semble que dans ce film il y a plusieurs scènes où Wonder Woman est particulièrement ramenée à sa condition d'objet qui... à l'origine était peut-être la manière dont elle avait été créée, c'est-à-dire une pin-up, plutôt dans un contexte des années 40, etc. Mais qui, aujourd'hui, en 2017, lorsqu'on veut effectuer une relecture du personnage de Wonder Woman, me paraît un peu léger. Notamment, par exemple, lors de son arrivée à Londres, lorsque elle se balade comme ça dans son costume de pin-up de Wonder Woman et que enfin, Steve Trevor est censé en train de lui rabattre sa cape autour, ou alors un autre moment où d'un coup elle voit un bébé dans la rue et elle va se mettre à hurler un bébé, et d'un coup la caméra va changer d'échelle des plans et va d'un coup la filmer comme une espèce de folle hystérique qui est là dans la rue et la ramener à une espèce de condition d'hystérique folle mangeuse d'enfants qui me semble être un peu déjà inutile narrativement et inutile dans la mise en scène. Et il me semble que Patty Jenkins échoue à créer un cadre particulier dans lequel elle aurait pu se révéler comme héroïne féminine, mais pas forcément objectifiée, dans un premier temps.
Oui, du coup, c'était une erreur, en fait, de faire une pub énorme comme quoi c'était un film féministe, parce que, franchement, c'est un film de super-héros, et les super-héros, ils peuvent être autant des extraterrestres que des femmes, que des hommes, que n'importe qui. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on va voir un super-héros.
Et du coup, juste pour finir, Occitane, tu avais encore un dernier grief à opposer à ce film.
Oui, effectivement, bah, il me semble qu'il y a un gros problème au niveau de la petite troupe qui suit les deux héros, c'est-à-dire Wonder Woman et Steve Trevor, notamment le personnage de Saïd Tagmaoui, qui interprète un certain Samir, qui est un maghrébin français, voilà, enfin un soldat venu des colonies et qui au début du film dit quelque chose comme oui j'aurais aimé être acteur mais malheureusement je suis arabe et du coup l'industrie actuelle ne me laisse pas ma place en tant qu'acteur et du coup on s'attend à ce que peut-être qu'il ait un rôle un peu plus important dans ce film, qu'il ait peut-être une écriture un peu particulière, mais hélas on se retrouve avec les mêmes clichés que dans les années 40 sur
cinéma. Il peut pas être acteur, quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'il a ce côté, enfin c'est Pascal Blanchard qui parle dans la culture coloniale de l'arabe de service, c'est-à-dire toujours un peu à moitié courbé dans le film, toujours un peu à faire le pitre, ou alors un peu fourbe, un peu peureux aussi parfois, et à un moment, il s'agit de s'introduire dans une fête organisée par les Allemands, et puis alors il se met à sauter partout en disant « je peux être ton chauffeur », des trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement gênant, et du coup, c'est un petit... Enfin, cette phrase, quand il dit « oui, j'aurais aimé être acteur », ça me fait penser à ce genre de truc du genre « oui, je suis pas raciste, j'ai un ami noir », mais pour pouvoir l'investir de tous les clichés racistes possibles et imaginables. De la même manière, il y a un écossais alcoolique dans la petite troupe, ou alors il y a un indien qui n'a même pas de prénom, qui s'appelle Chef, et qui à un moment donné doit faire des signes, doit donner un signal, et qu'est-ce qu'il fait en plein Pays de la Loire? Il fait des signaux de fumée.
Non, mais c'est tellement... c'est totalement random, franchement, le coup de l'écossais, de l'amérindien et du maghrébin qui se retrouve derrière les lignes ennemies dans les combats des Flandres pendant la Première Guerre mondiale, accompagné d'un agent secret américain et d'une Amazone. Voilà, c'est juste délire.
C'est du gros délire, mais ils sont tous investis dans un certain nombre de clichés coloniaux, et c'est pour ça que ce film l'aurait été fait dans les années 40, ça ne m'aurait pas choqué, parce qu'entre la pin-up qui n'est pas du tout réinvestie d'un combat féministe du 21e siècle, le racisme latent, etc., alors qu'on est à l'ère soi-disant de l'intersectionnalité et des choses comme ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà.
Un petit peu dommage contre divertissant. On vous laissera vous faire un avis, chers auditeurs, sur ce Wonder Woman qui aurait été discuté un peu âprement. Je continue tout de suite et brièvement avec deux films. Alors on reste dans du genre, mais pas le même. qui sont sortis cet été. D'abord du noir. En fait, les deux relèvent quand même un petit peu du noir, avec noir coréen pour le deuxième, si on peut considérer que c'est un genre à part. Le Caire confidentiel de Tariq Saleh avec Fares Fares, sorti au mois de juillet, qui est toujours en salle chez nos amis des cinémas Lumière, qu'on recommence à saluer dans chaque émission. Tout démarre avec l'assassinat d'une jeune et célèbre chanteuse dans un hôtel. Un jeune inspecteur est mis sur l'affaire et comprend assez vite que l'un des hommes politiques les plus puissants d'Égypte est mis en cause. Alors il mène l'enquête malgré les menaces dans le contexte assez intéressant d'une révolution qui s'éveille peu à peu. Alors c'est un film noir, un vrai, ça fait du bien. Il ne faut pas s'attendre à une originalité formelle débordante. Mais les codes sont repris avec un talent assez impressionnant. Alors, je disais, il mène l'enquête. C'est pas Hercule Poirot qui cherche des indices méticuleusement. On connaît très très vite le coupable, mais il s'agit de le coincer, et puis de sauver sa peau, parce que bien sûr, tout se passe dans une espèce de bas-fond, comme on les aime dans ce genre de cinéma. Je parlais des codes. Bien sûr, il y a cette ville tentaculaire, cette ville vue d'en bas et dans laquelle on se perd. Il y a les lumières. Hein, c'est un film qui se passe de nuit, avec bah, évidemment tous les jeux de lumière à commencer. Par tous les reflets sur le manteau en cuir du personnage principal, cette espèce de carapace qu'il a autour de lui. Le personnage principal lui-même, enfin, joué par Fares Fares, que je connaissais pas personnellement et qui fait preuve d'un charisme assez redoutable. Oui, cette espèce de bloc fragile, comme on les aime aussi dans le grand cinéma noir. Bref, ben, un très très bon film que je vous recommande de voir pendant qu'il est encore temps. Et puisqu'on en est à parler de très très bons films, je vous disais un deuxième film coréen. Alors ça n'est pas du tout une sortie, c'est une ressortie, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler quand même un petit peu ici. Personne n'aura manqué de l'apprendre. Memories of Murder a été ressorti cet été. Le premier chef-d'œuvre de Bong Joon-ho, le réalisateur controversé de Okja récemment, qui sort donc ce thriller nocturne aussi, coréen, donc avec toute la violence que ça implique, âme sensible s'abstenir. Il s'agit de femmes violées et puis tuées avec leurs sous-vêtements dans la nuit, dans des circonstances un petit peu atroces. Là aussi, une enquête qui piétine avec des personnages complètement losers comme on les affectionne dans ce cinéma coréen. Une violence qui affleure dans chacun des plans, dans les jeux de lumière, dans toute l'alternance des séquences. Une violence qui malgré tout reste assez diffuse dans l'image, et c'est ça qui fait que ça prend au trip, c'est que justement c'est toute la technique qui porte cette violence et finalement pas tant les images que ça. C'est un film qui est souvent présenté comme un peu un acte fondateur de ce renouveau du cinéma coréen, et on comprend en le voyant l'importance que ce film peut avoir. C'est une véritable splendeur. Alors on met quelques heures à s'endormir après, j'en ai fait l'expérience, mais c'est à voir absolument, donc, comme disait le regretté Raph. Et on termine tout de suite avec un dernier film que vous allez nous présenter, Pierre, encore toi, et puis Mathias. Dunkerque de Christopher Nolan. Alors, peut-être Mathias pour un résumé.
Résumé, alors, trois espaces, trois fils narratifs, la plage, la mer, les airs, pendant le siège de Dunkerque par les Allemands. Les Anglais sont coincés sur une plage, ils cherchent à regagner la mère patrie en essayant de ne pas... La perfide Albion, en essayant de ne pas se faire bombarder par les avions ennemis qui coulent inlassablement les bateaux anglais. Et donc l'idée, c'est de rejoindre par tous les moyens la terre ferme et de sauver sa peau dans un lieu qui ne peut être qu'un lieu de mort.
Chouette. Et alors, est-ce que ça vous a plu?
Oui, incroyablement.
Oui, pas incroyablement, mais oui.
D'accord. Alors, bah, alors peut-être Pierre, vu que tu as la vie le moins nuancée, vas-y, lance-toi.
Bien, ce film, je l'attendais depuis qu'il a été annoncé. Et ce film ne m'a pas déçu du tout. Enfin, je m'attendais à du Nolan et j'ai eu du Nolan, donc des plans grandioses, de la musique au violon qui vous joue sur les nerfs ou simplement vous amène les larmes aux yeux malgré vous. Et après encore, on retrouve les jeux narratifs de Nolan, notamment au niveau de ces trois temporalités différentes qui se finissent par se rejoindre, puisque c'est un détail qui, quand même, ça aide de s'en rendre compte un peu avant le film. D'ailleurs, moi, mon meilleur ami me l'avait dit avant que j'aille voir le film, et lui a trouvé le film décevant, parce qu'il n'avait pas compris cet élément narratif, où du coup, le temps se passe de manière différente en fonction de si on est dans l'air, une heure, si on est dans la mer, un jour, ou si on est sur Terre, une semaine. Et du coup, je trouve que ce jeu narratif marche très bien, surtout quand ça se rejoint, parce qu'on retrouve des petits plans, on fait « Ah tiens, j'ai déjà vu ça », mais on le voit d'une autre perspective, et du coup, je trouve que ça marche très bien. Et aussi, oui, petit détail qui est non négligeable, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau que ces deux Spitfire tout seuls dans les airs, entourés des nuages qu'on voit tout petit au loin. C'était vraiment, mais sublime, vraiment.
Eh bien, le mot sublime est prononcé, Mathias ?
Non, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça marche. Il y a une mécanique qui est parfaite, c'est très bien huilé. Il y a la musique, les acteurs, les plans, la construction narrative, ça marche très très bien. Après, voilà, ce que j'ai, pour rebondir sur ce que tu disais, je trouvais voilà, l'éclatement temporel, le choix de prendre trois fils narratifs et de les faire s'entrecroiser avec trois niveaux de temporalité différents. J'ai trouvé que ça marchait excellemment bien. Notamment quand on s'affronte à un film de genre qui est quand même sans doute le type de film le plus codifié du monde. Un film de guerre, c'est linéaire, il y a une trame narrative et on n'en sort pas, on est dans les clous. Là, j'ai trouvé que éclater finalement le carcan du film de genre avait quand même son... C'était pas juste du gadget narratif, ça avait quand même le bienfait de nous prendre dans le film, mais de manière complètement différente que ce qu'on peut avoir dans un film de genre.
D'ailleurs, le Canard Enchaîné a dit du film que c'était un film d'épouvante plus qu'un film de guerre, et c'est vrai que ça joue sur différents genres. Si on s'attend à un film de guerre avec beaucoup d'action, en fait, par exemple, les Allemands, on les voit jamais, et c'est vraiment cette menace tout le temps.
On ne voit jamais l'ennemi. Autre point positif du film, c'est qu'il n'est pas du tout manichéen dans le... Il n'y a pas d'un côté la bonne armée qui porte de bonnes valeurs et qui va aller les donner à l'ennemi de façon plus ou moins gentille. Non, en fait, on est juste face à une bande de personnes qui sont juste là pour sauver leur peau et qui vont faire à peu près tout ce qui est possible pour la sauver, peu importe le carcan moral qu'on pourrait leur imposer. Et la fin n'est pas du tout dans une célébration magnifique de la victoire anglaise, puisque de toute façon, on ne sait pas du tout quelle sera l'échéance de la guerre. On est sur une fin très très amère finalement, avec ce dernier plan qui a pris une sorte d'exaltation, un dernier plan un peu ironique face au spectateur. Mais non, voilà, j'ai trouvé que ça marchait bien, que c'était pas un film de guerre trop avec de trop gros sabots, et j'ai trouvé que ça prenait quand même aux tripes assez.
Après, quand même, je trouve des limites à ce film. Je veux revenir sur le point où, en fait, c'est juste, ça transforme l'histoire en spectacle, notamment avec l'arrivée des petits bateaux, qui sont comme le summum du film, alors qu'en fait, pas vraiment, voire pas du tout, et historiquement. Et surtout, en fait...
Mais c'est pas un film historique.
Mais en fait, si, parce que justement...
Non, c'est une tragédie.
Sauf qu'on s'attendait
à ce que... C'est une tragédie classique. Ce n'est pas un film historique, c'est une tragédie classique avec trois unités de lieu, de temps et d'action. Mis à la sauce Nolan. Donc c'est pas un film historique.
C'est que Nolan a fait un travail historique remarquable.
Racine aussi faisait un travail historique, hein, mais c'est pas des.
On recommandera aux auditeurs d'aller voir Dunkerque pour se faire une idée, selon qu'ils seront plutôt littéraires ou historiens, elle sera différente. En attendant, j'espère qu'on vous aura donné plein de belles envies de cinéma, d'étoiles plein les yeux. C'est déjà fini pour cette semaine de rentrée. Vous pourrez nous retrouver mardi 12 septembre à 19h dans le grand enregistrement public de rentrée de Transistor, où nous vous attendons nombreux. Attention, ça commence à 18h, 19h, c'est pour ceux qui veulent venir nous voir, nous. Chroniqueurs potentiels et passionnés de cinéma avides de partager vos découvertes, n'hésitez pas à nous rejoindre en envoyant par exemple un petit message à la page Facebook de l'émission ou à l'adresse redaction@transistor.fr. D'ici là, bonne rentrée à toutes et à tous, et bien sûr, bon voyage dans les salles obscures.